Top, c'est parti.
C'est pas la télé.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
L'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
L'émission politique, c'est le rendez-vous de prime time du service public. L'émission politique, l'an 2. Lors de la saison précédente, previously, comme on dit, David Pujadas, présentateur du 20h et visage de la politique sur France 2, claque la porte. Michel Fil, directeur de l'info et grand ordonnancier de l'émission politique, est débarqué. Et ce, juste après la victoire au présidentiel d'Emmanuel Macron, suivi au gouvernement et à l'Assemblée par une kyrielle de nouveaux visages que le public ne connaît pas, et par une bande de ministres qui, comme leur président, ne parle pas. Alors comment, dès lors, penser une émission de télé qui doit continuer à faire événement ?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Sonia.
Seule à la manœuvre désormais, vous héritez d'une longue tradition de grand oral politique depuis l'heure de vérité sur Antenne 2, en passant par des paroles et des actes.
Vous étiez... là, vous mettez la pression.
Oui, exactement.
Direct.
Vous étiez la saison dernière en duo avec David Pujadas. Alors, au centre de toutes les attentions, l'émission politique a été au centre de toutes les attentions. Et les débats télé aussi, qui ont rythmé la campagne, c'est là que ça s'est beaucoup joué, beaucoup plus que dans les matinales radio. À votre avis, pourquoi ?
Je suis pas sûre que beaucoup plus que dans les matinales radio, mais effectivement, vous avez raison, je fais pas de comparatif entre les matinales radio parce que, en l'occurrence pour France Inter, mais RTL et d'autres chaînes également, RMC, ont battu leur record d'audience. Donc ça veut dire que quand même ça a attiré la politique l'an dernier. En revanche, c'est vrai qu'on avait un pari l'an dernier, c'était d'installer une émission statutaire sur le service public et on espérait, des paroles et des actes avaient fait d'une certaine manière l'élection de 2012, on espérait que ça se ferait aussi sur l'émission politique cette année. On avait au début de l'année la concurrence de TF1 qui lançait aussi son émission politique, qui très vite l'a arrêtée et nous on l'a poursuivie jusqu'au bout et je peut dire humblement que oui, on a contribué à ce que ça se passe chez nous sur France 2 en prime time tous les 15 jours ou presque dans cette émission politique où on a reçu quasiment tous les grands candidats aux primaires de droite, aux primaires de gauche et ensuite à la présidentielle.
Alors justement, cette émission de prime time, elle a été manifestement calibrée pour les primaires et pour la présidentielle, une pure émission de campagne de conviction pour les invités. À quoi va-t-elle servir cette année ?
Eh bien, elle va servir à un débat de fond. On s'est posé la question. Comment on fait une émission politique hors année électorale?
Voilà.
Est-ce que ça sert encore à quelque chose ou pas? Eh bien, moi, je pense que oui. Et la direction de France 2 pense également que oui. Emmanuel Macron a bousculé les choses. Il a changé les logiciels. Il a changé le paysage politique. On a un nouveau Parlement. On a des nouvelles têtes. Ça nous oblige à nous, journalistes, de nous remettre en cause en permanence. Et je trouve que c'est bien parce que on avait peut-être tendance à paresser et à être un petit peu trop dans nos pantoufles. Et il est en train, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas, Emmanuel Macron, il est en train de révolutionner d'une certaine manière le pays, que ce soit dans les domaines économiques ou sur l'Europe. Et on l'a entendu cette semaine avec son grand discours. Donc, est-ce qu'on a envie de comprendre ce qui se passe vraiment, ce qu'ils sont vraiment en train d'essayer de faire, ou pas? Je pense que oui, je pense qu'il y a une appétence pour ça. Je l'espère.
Et en même temps, une vraie question, c'est-à-dire, comment la fabriquer cette émission? Qui pour incarner le pouvoir? Qui pour parler? Qui et pour dire quoi?
Invité Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, bonjour.
Bonjour.
Mais aussi secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Christophe Castaner qui nous rejoint en studio. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'être avec nous.
Christophe Castaner, bonsoir. Alors, bonsoir. Cette semaine, les Antilles ont été dévastées par l'ouragan Irma.
RMC, le grand oral des grandes gueules.
Avec le porte-parole du gouvernement, monsieur Christophe Castaner, bonjour.
Bonjour.
Christophe Castaner, qui était d'ailleurs votre dernier invité sur France 2 au mois de mai. Christophe Castaner, 12 émissions de télé et de radio en 20 jours.
Il est en train de battre le record de Florian Philippot.
Exactement. C'est ça. Renouvellement très brutal des visages de la vie politique. Vous recevez Édouard Philippe, Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, il n'aurait pas été l'invité de l'émission politique en prime time pendant 2 heures.
Non, bien sûr que non.
Parce qu'il n'était pas
une figure politique
de premier plan.
Et voilà, vous me demandez l'intérêt de l'émission politique, et bien l'intérêt, il est celle-là, notamment sur celle de ce soir, puisque c'est un visage inconnu des Français il y a encore 6 mois. Il a été propulsé d'une certaine manière et il a une ascension presque aussi fulgurante que celle d'Emmanuel Macron, maire du Havre à 38 ans, Premier ministre à 46 ans, on ne le connaissait pas ou très peu, et il est balancé à Matignon, et il n'a pas encore réussi, Édouard Philippe, c'est son grand challenge, ce sera la grande question, une des grandes questions de ce soir, il n'a pas encore réussi à tisser un véritable lien avec les Français à l'issue de ces 4 mois. Quand on interroge les Français dans les sondages, qu'est-ce que vous pensez d'Édouard Philippe, ils répondent ce qu'ils pensent d'Emmanuel Emmanuel Macron. Mmh. Donc, je pense qu'ils en ont conscience à Matignon et qu'il joue très gros. Il joue son grand oral. Il va se présenter, le Premier ministre. On va savoir ce qu'il a quelque chose vraiment dans le ventre.
Justement, est-ce que vous n'allez pas manquer cette année de superstars ? Est-ce que vous n'allez pas manquer de figures qui ont un lien avec les Français, précisément ? Avant d'être à Matignon, Manuel Valls, c'était déjà un invité potentiel de l'émission politique, écoutez, avant même
pas,
d'être Premier
ministre.
C'est
pas moi qui fais les stars de la vie politique. Mmh. Il y a eu un dégagisme, un mouvement de dégagisme des stars de la vie politique. Il y a des nouveaux visages, c'est à nous de les imposer et de créer les stars de demain. Est-ce qu'Edouard
Parce
Philippe
que
a l'issue
quand on regarde le gouvernement, mais justement, il y a Bruno Le Maire, il y a Nicolas Hulot, et en fait... Ça
non, il y a Jean-Michel Blanquer également, qui est en voie de starification, puisqu'on le voit un peu partout. C'est bien aussi, non ? C'est bien aussi qu'on ait des nouveaux visages. Alors maintenant, moi j'attends de savoir si Edouard Philippe est simplement en exécutant Emmanuel Macron, ou s'il a autre chose dans le bide, comme on dit. Et l'acmé, l'apogée, le point d'orgue de l'émission va être évidemment cette affiche qu'on propose. Parce que vous me dites comment on fait pour renouveler une émission politique. Eh bien, je vous dis, par exemple, on propose ce duel qui, à mon sens, est l'affiche la plus attendue de cette rentrée. Édouard Philippe face à Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, c'est l'opposant numéro un au gouvernement et à Emmanuel Macron. L'opposé à Édouard Philippe, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la politique depuis 30 ans, qui est une excellente bête de télévision, qui a le verbe, qui a l'éloquence. Face à lui, un nouveau Premier ministre, plus jeune, plus emprunté. Comment ça va se passer ? Comment
Alors,
ça va se
justement,
faire ?
En dehors de Jean-Luc Mélenchon, si on parle d'opposition, c'est extrêmement intéressant parce que en réalité, la deuxième force d'opposition, la même la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est la droite dit non constructive. Mmh. C'est Laurent Wauquiez. Est-ce que Laurent Wauquiez est de taille à supporter l'arène qu'est l'émission politique ?
Oui, je le pense. Mais on attend de voir s'il est élu ou pas à la tête des Républicains. S'il est élu, Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, bien entendu qu'on lui lancera l'invitation pour début janvier ou février. Je
Parce
pense
que
qu'il a tout à fait les épaules de supporter un
printemps. Une droite traditionnelle qui se déchire, une gauche traditionnelle qui se déchire, qui pour les incarner, qui pour rassembler, qui pour prendre la parole. On a assisté justement à une semaine de petites phrases entre Pécresse et Wauquiez, puis ensuite on a eu une semaine de ping-pong entre Philippot et Marine Le Pen. C'est précisément tout ce que les Français ont rejeté par les urnes, c'est-à-dire cette espèce de ras-le-bol de la politique politicienne et
c'est ce qu'on va essayer. Vous voyez, c'est ce qu'on va essayer d'éviter ce soir à l'émission politique. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des moments dans la vie politique, dans la vie de la société, dans la vie des médias et dans la vie d'un journaliste, il y a un moment où on va vers la transgression, où on a envie de choquer, de renverser la table, etc. Et
puis ça a été votre cas à vous aussi personnellement.
Oui, ça a pu être mon cas à moi aussi, où j'allais peut-être assez facilement vers une forme de transgression ou vers la question choc, etc. Et je pense qu'il y a des périodes et des moments dans la vie d'une société, dans la vie médiatique, d'une certaine restauration et d'un retour au classicisme. J'ai le sentiment que le retour au classicisme, c'est un peu la nouvelle modernité de cette rentrée, parce qu'on en a soupé des rebondissements, des affaires, de tout ce qui s'est passé dans cette année électorale où ça passait tous les jours une affaire, tous les jours un rebondissement, tous les jours un candidat qui se faisait massacrer ou guillotiner. Voilà, maintenant Macron est élu, qu'on soit content ou
et
pas.
Et en même
Macron
temps, vous commencez, Léa Salamé, vous commencez par Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas dans le classicisme, qui est dans la transgression, qui aime s'emparer du micro.
Il est l'opposant numéro un, c'est pas moi qui l'ai décidé. Ainsi,
il est la quatrième force parlementaire. Quel est votre regard précisément sur la façon extrêmement habile et spectaculaire dont la France insoumise, justement, occupe cette place de première opposante, force opposante, et surtout colonise les plateaux télé et les médias en général ? Pas un jour sans que Corpière, Garrido, Caténins, etc. ne soient en télé ou en radio.
C'est réussi. De la part de la France insoumise, c'est réussi. Il profite des cendres du Parti socialiste et des sociodémocrates qui ont peine à exister. Même chose à droite et des dissensions internes du Front National qui traversent une crise majeure en ce moment même. Celui qui va bien, c'est Mélenchon et la France insoumise pour l'instant. Donc on les entend plus et c'est normal. Ils sont en force, ils sont en puissance, on le sent. Ils mobilisent dans la rue, alors plus ou moins.
Et ils sont là pour répondre à l'agitation médiatique, pour occuper les
villes
aussi.
Je dois dire que Emmanuel Macron, le ping-pong de cette rentrée, c'est entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Au-delà, rien n'existe vraiment.
Donc Léa Salamé s'est apaisée ?
Un peu.
Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle formule de l'émission politique que vous proposez ce soir. On parle toujours de cette première partie qui ressemble à votre formule de l'année dernière. Vous avez parlé du duel. Il y a également ces séquences face aux Français. Elles ont été relativement fructueuses l'année dernière. On a vu Nicolas Sarkozy s'embourber face à un imam, Emmanuel Macron face à un syndicaliste Uber ou face à une historienne filloniste. On a senti une vraie tension. On a senti Alain Juppé s'en mêler les pinceaux face à un YouTuber. Vous poursuivez dans cette voie.
Oui. Oui.
Qu'est-ce que vous cherchez à faire surgir dans ce face-à-face face aux Français ?
Un moment. Moi, ce qui m'intéresse, que ce soit en radio ou en télévision, c'est de créer un moment. Alors, on peut dire, oui, c'est de l'agressivité ou c'est du spectaculaire, mais pas toujours. Parfois, c'est un moment d'émotion, parfois, c'est un moment désarmant. Parfois, comme vous venez de le dire, c'est un homme politique qui s'en mêle les pinceaux face à des questions plus simples. Et souvent, et parfois, et je l'entends le matin sur Inter également, avec la parole aux auditeurs, ils arrivent à faire surgir quelque chose, une vérité de l'homme politique que nous, journalistes, on n'arrive pas.
Alors, vous parlez du moment de télé, vous parlez du moment de radio, l'invité mystère. Est-ce que là, c'est typiquement le ce qu'on appelle le happening, la pure mécanique télé, c'est-à-dire le suspense qui monte,
oui.
L'invité qui...
Oui, je
c'est
le revendique.
La pure mécanique télé.
Oui, c'est une forme de mise en scène. Elle fait partie de la marque de l'émission politique. Elle est là, elle a suscité du suspense. Moi, de toute la journée, je reçois « c'est qui alors ?»« C'est qui ? Vas-y, donne-moi un indice. C'est qui l'invité mystère ?» Je n'ai rien le droit de dire, donc je mens à mes amis ou à des collègues. Et voilà.
Vous avez des regrets sur les invités mystères de l'année dernière ?
Je vais vous répondre sans langue de bois et sans détour. Oui, il nous est arrivé au sein même de l'équipe, avec Michel Field, avec David Pujadas, avec les rédacteurs en chef, de douter et de voter. Et la majorité l'emportait. Et il est arrivé, je vous dirai pas qui, mais il est arrivé, en ce qui me concerne, d'avoir une opposition très ferme à l'un des invités mystères. Et j'ai perdu, puisque la majorité le voulait, et vous l'avez vu à l'antenne.
Je vous fais une proposition.
C'est le moment de l'invité mystère pour un débat de 10 minutes. Vous allez le découvrir tout de suite si vous vous tournez. Marine Le Pen, vers là. Non, de l'autre côté.
Il est issu lui-même des rangs de l'extrême droite. C'était dans les années 80. Il est surtout connu pour avoir été le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et pour l'avoir aidé à siphonner les voix du Front National en 2007. Bonsoir Patrick Buisson, installez-vous.
Ah, je ne m'attendais pas à vous voir là, j'avoue.
Bonsoir Marine Le Pen.
Est-ce que c'est le rôle du service public quand on reçoit Marine Le Pen ? D'ailleurs, vous allez la recevoir prochainement pour
la deuxième
édition, le 19 octobre, de l'émission politique. Est-ce que c'est le rôle du service public, Léa Salamé, d'opposer Patrick Buisson à Marine Le Pen ?
Je vais vous répondre par une boutade. Patrick Buisson ne sera pas invité à la prochaine émission politique dans quelques semaines.
Bon, donc ça fait partie des regrets ?
Je vous ai répondu.
Voilà. Exit Charline Vanhoenacker à la fin de
l'émission. Oui, mais
l'émission
elle le voulait aussi.
Politique.
Alors ça, vous savez, je suis la meilleure publique de Charline puisqu'elle passe tout de suite après moi sur Inter. Elle-même se disait, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire hors période électorale ? On s'est posé la question et on s'est dit d'un commun accord que non.
Tout compte fait, l'humour n'avait rien à faire là.
Non, moi je pense que l'humour était parfaitement bien là et je pense que Charline a créé des moments et que c'était extrêmement difficile pour elle d'arriver après 2 heures d'une émission extrêmement dure, dans cette arène et d'assurer face à l'homme politique pendant 3 ou 4 minutes. Je la trouve extrêmement courageuse, extrêmement forte.
Donc vous n'avez pas cherché à la remplacer ?
Non.
Alors il y a une nouvelle deuxième partie.
C'est une nouvelle. Dont je suis assez fière, je suis assez contente parce que c'était mon idée.
Alors la direction a dit banco, ça ressemble à l'ancien mot croisé.
Pas forcément. C'est plus l'idée de se dire qu'en sortant de ces 2 heures d'émission politique ultra dense, les gens qui aiment la politique allaient ensuite sur les chaînes d'infos pour entendre le débriefing. Alors pourquoi ne pas le faire chez nous ?
Donc, c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est vraiment l'héritage des chaînes d'infos que vous rapatriez ici.
Oui, c'est une bonne idée des chaînes d'infos, mais quand ils font des choses bien, il faut le dire.
Oui,
moi, je viens de là, donc j'en suis fière.
Le commentaire de l'événement ?
Non, c'est pas le commentaire de l'événement, c'est justement ce qu'on a voulu faire. On va découper cette deuxième partie en deux parties. Il y aura d'abord un débriefing, est-ce qu'il a été convaincant ou pas Édouard Philippe ? Est-ce qu'il s'en est sorti face à Mélenchon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et avec des gens comme Danny Cohn-Bendit, comme Emmanuel Ménard, lié au Front National, comme François-Xavier Bellamy, qui est un intello de droite qu'on invite ce soir. Et la deuxième partie, c'est vraiment un débat de fond sur les 3 thèmes qui, à mon sens, ont marqué ce début de quinquennat.
Alors, rendez-vous manqué avec Michel Onfray, on va pas revenir dessus, vous n'êtes pas mis d'accord sur les termes de sa rémunération. Est-ce que vous lui avez trouvé un remplaçant ?
Non, on a décidé de ne pas remplacer. On aura des intellos dans cette deuxième partie, mais pas forcément un regard récurrent.
Je vous fais réécouter votre propre 7h50 sur France Inter. Vous étiez face à l'écrivain Philippe Besson. Philippe Besson qui explique ce que Emmanuel Macron pense des intellectuels médiatiques. Voici ce que vous-même, Léa Salamé, vous ajoutez.
Sur les intellectuels, il a un rapport un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, il a le sentiment qu'ils ne produisent plus d'idées, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des commentateurs de l'actualité politique. Il dit que c'est des gens qui méprisent la politique, mais qui vivent de son commentaire. Donc forcément, ça l'agace un peu. Donc il préfère quand on se situe à un certain niveau.
Ce qui n'est pas
de pensée,
totalement faux.
Ce qui n'est pas totalement faux, je crois, oui.
C'est mon avis.
Ce n'est donc pas totalement faux.
Je suis sortie de ma neutralité. Oui, parfois, il y a une tendance à faire du commentaire sur le commentaire sur le commentaire qu'ont les journalistes et les éditorialistes et qu'ont aussi parfois les intellectuels.
Les intellectuels, et c'est ce que vous faites, vous, là, en deuxième partie d'émission politique ?
Non, parce que là, je vous dis, c'est surtout un débat de fond qu'on va poser. C'est pas seulement du débriefing et du commentaire.
Les trois vies de Léa Salamé, c'est à 7h50 tous les jours sur France Inter, du lundi au jeudi. C'est une fois par mois l'émission politique. Et c'est stupéfiant, le magazine culturel hebdomadaire qui reprend sur France 2 le 2 octobre. C'est-à-dire lundi prochain, toujours des reportages au long cours et un premier invité. Votre premier invité, ce sera Vincent Cassel.
J'ai de la chance.
Hein. Non, bah oui, vous avez de la chance parce qu'il est très très beau, mais surtout, surtout, il nous a paru incroyablement jeune pour être interviewé dans Stupéfiant. Je vous fais réécouter votre première émission l'année dernière. C'était Alain Delon et c'est comme si ça donnait le programme pour la suite.
Je n'aime pas revoir des films parce qu'il y a beaucoup de films où je suis le seul survivant et qui sont tous morts et je dis. Bon, vous ne ferez jamais regarder la piscine, par exemple, parce que de voir Romy et Maurice comme ça dans la piscine, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir Romy comme ça, moi. C'est pas possible. Je suis un mythe vivant.
C'est ça, vous êtes le dernier mythe vivant.
Ben oui, parce que le pauvre, quand il parle de mon pote Steve McQueen, c'est un mythe, mais il n'est plus là.
Alors, d'accord, vous avez interviewé dans Stupéfiant Marion Cotillard et Louis Garrel, mais vous avez interviewé Pierre Berger, qui est mort entre-temps, Alain Delon, Roman Polanski, Philippe Solers, Alain Finkielkraut, Bernard Arnault, Jean d'Ormesson, Agnès B., Bernard Pivot, Anne Sinclair, Agnès Varda et Karl Lagerfeld. Pourquoi une moyenne d'âge aussi élevé dans le choix de vos invités.
Vous avez oublié Valérie Lemercier et Adèle Haenel pour faire baisser un petit peu la moyenne d'âge.
Et bien, il y avait JR, mais il était en tandem avec Agnès Varda.
Je l'assume, Sonia.
Pourquoi ?
Je l'assume parce que je trouve qu'il y a les... Et je pense notamment là à Pierre Berger, puisque la deuxième émission Stupéfiant cette année, dans quelques semaines, ce sera un hommage à Yves Saint-Laurent et à Pierre Berger. Et Pierre Berger, j'ai eu la chance d'avoir une de ses dernières interviews à Marrakech chez lui. Moi, je trouve que, passé un certain âge, ils ont une liberté de parole qui est extrêmement rafraîchissante, extrêmement stupéfiante, pour reprendre le titre de l'émission. Et j'adore ça. J'adore la liberté de parole qu'avait Pierre Berger, qu'a d'une certaine manière Delon, qu'a d'Ormesson, qu'a Polanski. Ils n'ont plus besoin de faire attention et donc il y a des vrais moments de vérité. Enfin, je vous rassure, il y aura aussi des jeunes. Vincent Cassel, qui n'a que 50 ans. Yves Saint-Laurent, Carla Bruni et Jean-Paul Gaultier ont accepté de nous parler de Saint-Laurent et Pierre Berger.
Cette année, vous thématisez les émissions. Il fallait rassurer le téléspectateur, il fallait le prendre par la main, lui dire c'est un sujet et on le décline. Il fallait éviter de le perdre en cours de route.
Non, c'était nous. C'est l'équipe en elle-même. On s'est dit, mais en fait, est-ce que notre défaut, c'est pas de les emmener un peu partout, un reportage sur le hip-hop suivi de François Pinault à Venise et de son exposition, suivi de Jean d'Ormesson. Il n'y avait pas de lien. Et on s'est tous rendu compte qu'on avait envie de ce lien.
Quelle sera ma dernière question, Léa Salamé ?
Je sais pas.
Bah si, forcément.
Vous aimez les chiens ?
Ma dernière question, c'est celle que vous posez forcément à chacun de vos invités. Quelle est votre définition de l'art ?
On me la pose à chaque fois et chaque fois je titube un peu.
Et à chaque fois vous vous dites, mais finalement, est-ce que c'est une bonne question ?
Est-ce que c'est une bonne question ? Voilà. On va peut-être l'enlever, on va la gommer.
C'est ça.
Non, c'est ce qui n'est pas nécessaire, mais qui sont l'art. La vie est un peu vaine, un peu banale. Et ne sert pas à grand chose.
Pas nécessaire, mais indispensable. Stupéfiant, lundi prochain, spécial Gauguin est donc de retour sur France 2. Et ce soir, c'est l'émission politique en prime time sur France 2. Merci Léa Salamé, c'est la fin de l'émission. Salut Ari. Je vais y arriver. Salut Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
La compétence suffit-elle pour réussir au boulot et à contrario l'incompétence pourquoi elle n'est pas forcément à contrario un frein à la réussite professionnelle ?
C'est ça, donc en gros, c'est ces gens qui foutent rien, qui sont mauvais mais qui s'en sortent toujours.
Mais aussi toutes ces personnes compétentes et qui se heurtent à un plafond de verre, je pense évidemment aux femmes. Évidemment, alors n'hésitez pas à témoigner. Et pas que, évidemment, pour témoigner et réagir. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, @radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook.
Voilà, une émission sur les incompétents, pas les fainéants, les incompétents.